popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Quand j'ai demandé à mon analyste s'il regardait En Thérapie, il m'a demandé pourquoi. Comme le font souvent les analystes, genre répondre à une question par une autre question, ne serait-ce que pour vous amener à comprendre pourquoi vous l'avez posé, la question. Je lui ai donc répondu par pure taquinerie, pourquoi pas ? Et je me suis même fendu d'une explication aussi sensée que rationnelle. Enfin, une série où l'on prend le temps de parler et celui d'écouter. Un peu comme à la radio, quand parfois on arrive à sortir des sentiers battus de la promo et qu'on parvient à faire dire aux invités les raisons profondes, les raisons réelles qui les ont amenés à participer à tel ou tel projet, qu'il s'agisse d'un film, d'un livre, d'une pièce, peu importe. Ça tient évidemment beaucoup à la nature des invités, à leur désir de creuser un peu, mais avec Emmanuel Berco et Jacques Weber, un peu à l'étroit sur le petit divan de Popopop, je n'ai aucune inquiétude. Comme le dit si bien mon analyste, il y a du grain à moudre. Pourquoi y a-t-il du grain à moudre ? Eh bien parce que nous allons parler d'En Thérapie, la plus passionnante et la plus intime des séries. D'ailleurs, mon analyste la regarde. Popopop, c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Emmanuel Berco.
Bonjour.
Bonjour Jacques Weber.
Bonjour.
Bienvenue. Oh, ce bel organe. Bienvenue dans Pop Pop Pop. Et rassurez-vous, cette consultation sera gratuite. Nous sommes sur le service public.
Très bien.
Voilà.
Très bien.
Vous venez donc tous les deux nous parler de la deuxième saison d'En Thérapie sur Arte, la série originellement israélienne, adaptée par Olivier Nakache et Eric Toledano, dans laquelle vous, Emmanuel Berco, avez réalisé les épisodes consacrés à votre personnage, interprété par vous, Jacques Weber. Nous allons longuement en parler avec Charline Roux qui nous rejoindra dans quelques instants. Et pour l'heure, nous allons parler un peu de vous deux car il y a quelques menues choses à dire. Alors, par exemple, on va commencer par ça. Je me suis toujours demandé, Emmanuel, Jacques, est-ce que parler de soi, ça va de soi dans un métier où l'on est souvent en représentation ? Est-ce que c'est si facile que ça ?
Ah ben, pour moi, c'est très difficile. Je déteste parler de moi.
Je sais, c'est pour ça que je vous pose la question.
Je fais un métier où je suis obligée de le faire. Ouais. Ponctuellement, quand on fait de la promo, parce que je parle sûrement de moi dans mes films, même s'ils sont jamais autobiographiques, mais au moins c'est un peu caché. Mais devoir verbaliser à propos de soi, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours profondément déprimé. Donc les périodes de promo me font descendre très très bas.
Oh, j'espère vous faire revenir un peu, un petit peu de baume au cœur.
Ça non, commence là, très fort. Je suis avec Jacques, je vais parler de Jacques.
Bon, oui, et vous, Jacques ?
Eh bien, écoutez, mon cher Antoine. Ouais. Non, j'avais d'autres fonctions, j'étais directeur de théâtre, donc j'étais un peu parfois obligé de parler des saisons, des programmations, même avec le public, il y avait des relations publiques qui étaient extrêmement importantes. Donc moi j'aime parler, mais par contre parler de moi c'est un foutoir absolument terrible, ça me terrorise et j'ai plutôt tendance à pour abréger la chose de dire je suis nul et n'en parlons plus, passons à autre chose, que je déteste toute forme de vanité, et je trouve que si on ne dit pas qu'on est nul, on est forcément vaniteux. Je sais pas comment m'expliquer. C'est très compliqué. Donc voilà, ça y est, j'ai commencé.
Très bien. Ben voilà. Elle va être bien, cette émission. Alors, je vais le formuler autrement, parce que vous faites des métiers de spectacle. Où se situe pour vous deux la démarcation entre ce que vous rendez public et ce que vous voulez garder intime? Est-ce qu'il y a un endroit ou une ligne à franchir, à ne pas franchir ?
Ben, je sais pas pour Emmanuel, mais Jacques. En tout cas, moi, il y a une chose sur laquelle on ne franchit pas un millimètre, c'est tout ce qui concerne ma famille. Quoi. Je refuse absolument d'en parler. Souvent, on m'a interrogé sur mes fils, puisqu'ils font à peu près le même métier que moi. Je n'aime pas du tout ça, eux non plus, je trouve ça très très bien. Non, voilà, à partir de là, moi, ce qui m'intéresse, si par exemple on parle de thérapie ou du roi lire, c'est de parler de thérapie et du roi lire. Et il se trouve que forcément, il y a des petits ricochets entre eux et moi. Donc, il y a quelque chose qui s'exerce de cette façon-là. Mais pas plus que ça, parce que sinon, ça devient... Et surtout, ce qui est très dangereux, c'est de parler en termes généraux de sa carrière, parce que là, on en revient à soi. Et là, la limite est étrange entre l'impudeur et la pudeur, quoi.
Emmanuel, deux mots sur votre famille, peut-être ?
Mais non, mais c'est vrai que c'est un peu malhonnête, un peu égoïste aussi, parce que c'est vrai que moi aussi, c'est tout ce qui dépasse le strict cadre de ce que j'offre à voir dans mon travail, bah, je n'estime pas devoir en parler, pas plus que je ne veux parler de politique. Et en même temps, c'est pas très honnête, parce que moi j'adore entendre les artistes parler de ce qui déborde de leur travail, parce qu'en fait, ce qui est passionnant chez les artistes, c'est de quoi ils sont faits.
Bien sûr.
Et donc je reconnais que c'est pas une position très très claire parce que j'aime bien écouter les autres en fait.
Bon, bah écoutez, je vais vous détendre quelques instants avec un petit peu de musique pour démarrer cette émission si vous le voulez bien. C'est The Wheel, c'est un morceau de PJ Harvey. Et nous écoutions The Wheel, la roue, oui, comme Charline, de PJ Harvey, en compagnie d'Emmanuel Berco et de Jacques Weber, qui nous parleront dans quelques minutes dans Nappe en thérapie, dans la nouvelle saison sur Arte. Mais pour l'instant, Jacques et Emmanuel, je dois vous dire que j'ai l'impression qu'on s'est vus récemment et que c'était au cinéma. Vous vous souvenez pas de moi? J'étais dans la salle, mais oui. Vous, Emmanuel, je vous ai vu dans ceci.
La tétrazine. Une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classée comme cancérogène.
Ça fait 3-4 ans que leurs lobbyistes font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS.
La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit.
Le meilleur.
Merci.
Tout le monde le sait et personne dit rien. Et nous, on crève, putain!
Cultiver sans pesticides se traduirait par la disparition de plus de 30% des volumes produits.
Il faut que vous vous battiez.
Goliath de Frédéric Tellier, dans lequel vous interprétez une femme dont le mari a été empoisonné par les pesticides et qui tente de combattre le complexe politico-industriel qui essaye, lui, d'étouffer ses affaires. Alors nous avions reçu ici même Gilles Lelouch pour parler de ce thriller captivant, mais aussi de sa valeur d'utilité publique. C'est un des rôles du cinéma que de porter sur la place publique des affaires d'un intérêt aussi général.
Ah oui, bien sûr, c'est un des rôles... le cinéma, il est potentiellement politique. Donc moi, c'est sûr que je suis capable d'apprécier énormément des films de pur divertissement et comme spectatrice et comme actrice. Mais c'est vrai que quand on a le sentiment de pouvoir éveiller les consciences, enfin moi par exemple, mon cinéaste préféré c'est Ken Loach. C'est pas un hasard, c'est que c'est un immense cinéaste, mais que c'est aussi un immense éveilleur de conscience, je sais pas si on peut dire ça comme
ça.
Oui, ça marche. Voilà, donc c'est quand le divertissement peut être associé à à quelque chose d'utilité publique, c'est merveilleux, enfin c'est au-delà de, c'est la mission quand même de l'art aussi.
Vous l'avez vu, Jacques?
Oui, j'ai beaucoup aimé.
Jacques, il voit tout.
C'était une... J'ai trouvé que c'était un film classique dans sa forme, mais qui était justement, qui avait cette forme d'utilité, d'efficacité utile, quoi. C'est ça que je trouvais très bien. Et puis c'était porté par des acteurs
puissants,
sensibles et puissants. Ouais, c'était très beau. C'était un peu dans la veine de. Je pense que ça n'irritera pas le metteur en scène. Je dis ça, c'est Madame Brockovich, non?
Erin Brockovich.
Julia Roberts, c'était un peu cette chose-là. Bah, et puis, toi, ce que tu as dénoncé avec.
Le médiateur.
Le médiateur, oui, c'est ça. C'était.
Vous éloignez pas trop du micro quand vous
parlez. Cette actrice exceptionnelle, d'ailleurs.
Vous
en rapprochez pas trop non plus. Morgan et tout, et puis là-dedans, c'était génial.
Bon, Jacques Weber, c'est aussi dans une sorte de thriller politique que l'on a eu le plaisir de vous voir. Puisque vous êtes à l'affiche du Monde d'hier de Diastème, qui est toujours à l'affiche, hein, comme Goliath. Diastème qui est venu nous rendre visite dans ce studio.
Tu crois que tu as déjà gagné? Mais qu'est-ce que tu crois?
Qu'est-ce que tu crois?
Non mais pourquoi tu t'énerves là?
Il faut que Gaucher renonce, il faut que cette élection n'ait pas lieu.
Tu aurais dû te représenter, Elisabeth, je te l'ai dit mille fois. Mille fois, c'est ta faute, ton orgueil.
Alors, pour mémoire, le film raconte la fin de la présidence du personnage interprété par Léa Drucker et son dire-cab Denis Podalydès et la montée d'un candidat d'extrême droite, la montée en puissance. Et là aussi, à travers la fiction, c'est du réel dont il s'agit.
Oui, mais je pense que ce réel est transcendé par une forme de... C'est quasiment de la tragédie, beaucoup plus cornélienne qu'horacinienne, puisque c'est le pouvoir qui est en question. Et je trouve que c'est porté par des acteurs, mais exceptionnels. Léa Drucker, dans le rôle de la présidente de la République, c'est bouleversant. Le moindre regard nous dit la fracture, l'obligation à être puissante et autoritaire et la fragilité de tout ça. Et il y a la... Parce qu'elle est partagée entre le secret intime, puisque il y a quelque chose qu'elle ne dit pas, et puis le secret obligé par le pouvoir. C'est un grand film parce que c'est une vraie grande tragédie et qu'il n'a pas peur d'affronter le sujet de cette façon-là. Et la forme classique est absolument splendide. Denis, Denis, moi, il m'étonne plus.
C'est Denis.
Un ami, mais c'est un immense acteur, voilà. Puis Léa, je suis fan des deux acteurs, là. Il n'y a pas que, d'ailleurs, dans ce film. Mais c'est réellement une grande tragédie qu'il faut à tout prix voir. C'est austère, mais c'est très, très grand. C'est très beau et très grand public.
Le Monde d'hier de Diastème. Vous l'avez vu, Emmanuel?
Non, pas encore, mais ça fait partie des films que
Francis
je vois.
Francis va voir tous les films, et vous n'allez pas voir tous les films.
Il vient de sortir.
Oui.
Non, mais il n'est pas question que je ne le vois pas.
Ah, il n'est pas question que je le vois pas. Ouais. Ah oui, sinon ça va mal se passer.
Ouais.
Ah. Ok, Emmanuel.
Je lui dis toujours, tiens, il faut voir ce film. On s'envoie les petits textos, je lui dis, tiens, il faut que tu ailles voir ce film.
Non, mais dès que j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu envie de voir ce film.
Et Emmanuel, chacun le sait, au moins depuis le Festival de Cannes 2015, où votre film La Tête Haute avait fait l'ouverture et où vous aviez remporté le prix d'interprétation pour Mon Roi de Mai Wen, vous êtes actrice et réalisatrice. Benoît Magimel vient d'ailleurs de remporter le César du meilleur acteur pour son rôle dans votre excellent film De son vivant. Et tout votre cinéma à vous porte cette marque, s'approcher au plus près des émotions les plus brûlantes. C'est ce qui vous fait avancer?
Non, vraiment, ce qui me fait avancer, c'est de filmer des gens. Et quand je dis des gens, ce sont évidemment des acteurs, mais aussi des non-acteurs, parce que moi, j'utilise, quel vilain mot. Je filme autant de non-professionnels que de professionnels, et c'est vraiment, je crois que c'est vraiment ça qui me passionne, en fait. Filmer des êtres humains, m'approcher au plus près de ce qu'ils sont profondément, ça m'intéresse, je pense, plus que de raconter des histoires.
Ouais. Vous êtes approché au plus près de cet être humain qui est Jacques Weber.
Ça oui.
Ouais.
Enfin, au plus près.
Aussi près qu'on puisse s'en approcher.
Aussi près qu'on puisse s'en approcher.
Cet imposant roi lire.
Vous voulez que je parle de
ah, ça, oui, non mais je
non mais c'était une très très grande expérience. D'abord par le sujet même, on est obligé d'être très proche avec le metteur en scène, puisque on est dans une immobilité extrêmement finalement active. Moi, je trouve que ce sont des films d'action qu'on a fait dans Thérapie.
Absolument, parce que vous parlez.
Ça n'arrête pas de bouger dans le cœur, dans l'âme, dans les tripes, dans les boyaux.
Je vous suis tout à fait.
Et là, il faut que la personne qui est avec vous reste pudique, mais reste aussi rentre dedans.
Donc, votre réalisatrice, Emmanuel Berco. Alors ça, on va y revenir dans un instant en Thérapie, avec la fameuse Charline Will, dont je parlais il y a quelques instants. Mais commençons par nous rassurer, comme le ferait un bon psy, en nous disant que tout ira bien dans cette émission. On va écouter un morceau de Métronomie qui vient à point nommé, c'est Things Will Be Fine.
felt this weight on me.
Métronomie, things will be fine. Et voici que Charline Roux vient de nous rejoindre, ce qui nous rappelle que tout comme certains sont en thérapie, d'autres sont en Picardie, ce qui est une autre façon de faire face à ces démons.
Elle dit qu'elle voit pas le rapport. Bonjour.
Charline, je me tourne vers vous.
Oui, je vous vois, vous êtes tournée vers moi. Ouais.
Nous sommes avec... Ça y est, je suis déjà tournée. Nous sommes avec Jacques Weber et Emmanuel Berco, respectivement interprètes et réalisatrices de certains des épisodes de la nouvelle saison d'En Thérapie sur Arte. Que se passe-t-il donc dans cette deuxième saison?
On retrouve le docteur Philippe Dayan 5 ans après la première saison, dans laquelle le trauma des attentats était très présent. C'est désormais au sortir du confinement que le psy accueille dans son nouveau cabinet ses nouveaux patients, parmi eux Inès et Yaïdara, une avocate solitaire, Robin, Alyosha Delmotte, un adolescent dont les parents fréquentaient déjà le cabinet, Lydia, Suzanne Lindon, une étudiante très secouée par une nouvelle qu'elle a du mal à affronter, et Alain Abgral, directeur général d'une grosse entreprise de vente en ligne dans la tourmente après le suicide d'une de ses employées. Alain Abgral, c'est vous, Jacques Weber. Emmanuel Berco, charge à vous de filmer cette thérapie. Vous qui êtes une cinéaste du mouvement, comment est-ce que vous avez accueilli cette mission?
Assez mal. Hein. Non, ça m'a fait extrêmement peur. J'ai pas réfléchi à dire non parce que c'est Toléda Nakache que j'aime énormément, ces garçons-là, et que de participer à quelque chose avec eux, j'ai estimé que c'était vraiment une grande chance. En revanche, ça m'a fait quand même très très peur parce que moi, dans le cinéma que je fais, si j'ai une scène à tourner de deux gens assis, un chant contre chant, Antoine, vous voyez de quoi je parle, ouais. Eh ben c'est l'enfer. C'est ma pire journée de tournage, c'est celle où je vais devoir filmer des gens assis qui se parlent. Donc je me suis dit, passer 13 jours à faire ça, et en même temps, parce que ça me faisait peur, je crois que ça m'a fait envie de me confronter à ça et de voir comment je m'en sortais.
Nakache et Toledano, les showrunners de la série, avaient établi pour règle une réalisatrice, un réalisateur par personnage. Alors, est-ce que vous êtes immédiatement trouvés tous les deux?
Alors, ce qui est bien, c'est que c'est la série d'Éric et Olivier, mais en revanche, les décisions... Enfin, moi, j'ai tout de suite dit, ok, mais il est évident que vous ne m'imposez pas d'acteur. Ça, je ne pourrais pas ne filmer quelqu'un que je n'ai pas choisi. Donc, ils m'ont tout de suite rassuré sur le fait que les décisions étaient collectives. Je ne pourrais pas non plus leur imposer quelqu'un qui n'approuverait pas. Et on a évoqué... des acteurs, et puis on s'est très vite accordé sur le nom de Jacques, mais moi je ne connaissais pas. En fait, moi, filmer quelqu'un que je ne connais pas, ce n'est pas possible non plus. et voilà, ça a été la rencontre physique avec Jacques qui a déterminé mon choix, et eux l'avaient rencontré aussi auparavant. Et après, il a pas eu aucune hésitation.
Jacques a un souvenir de cette rencontre physique,
très,
comme
très
dit Emmanuel.
Non, parce que moi, lorsque je rencontre pour la première fois quelqu'un, je suis d'habitude, je dis bien d'habitude, tétanisé.
Que oh, ça devait être bien tous les deux ensemble.
En disant, mais vous savez, il y en a d'autres bien meilleurs que moi. Enfin, mais vraiment, je parle tout à fait sérieusement. Puis il y a eu déjà un petit élément, c'est que Nakash Toledao, je trouve, a eu la gentillesse, voire l'élégance, de venir me voir chez moi, ce qui était la première fois dans mon 50 ans de carrière, que des gens se déplacent chez vous. Je trouve ça vachement mieux.
En même temps, ils sont en scout, hein.
Non, mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'aurais proposé un café, tout ça, mais bon, bref. Et donc, j'étais très à l'aise. Bon, donc, voilà. Donc, ils m'ont dit, bah, c'est d'accord, mais il faut que voir Emmanuel. Et là, bon, et on était dans une pièce absolument immense, vide, sans rien. Elle arrive, je crois que tu revenais de vacances. T'étais toute bronzée.
Dis pas des trucs sur ma vie.
Bref, elle arrive.
Emmanuel Berco prend des vacances.
Et moi, et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Mais vraiment, c'est vrai, je n'ai pas eu, je ne sais pas pourquoi, dans le bonjour, comment ça va, ou bon, alors, paf, c'était
là.
La peur n'était pas là. Mmh. Et si la peur n'est pas là, ça arrange beaucoup de choses.
En thérapie,
c'est très vite fait.
Saison 2, Jacques Weber avec Emmanuel Berco à la Réal, ça donne ça.
Bon, alors, on peut discuter des modalités. Moi, je vois deux possibilités. Je viens ici plusieurs fois par semaine, vous m'expliquez votre vision des choses, vous donnez quelques conseils. Je serai accompagné de mon assistante qui prendra des notes. Ou alors plus simple pour moi, vous êtes dans mes bureaux. Bon, évidemment, je paie comme les séances classiques, je suis parfaitement au courant de la rigueur de votre protocole. Non, votre prix sera le mien.
Alors, c'est un personnage très particulier que cet Abgral, un homme qui a l'air plein de certitudes et qui n'entre pas dans le cabinet à l'origine pour consulter, mais pour embauché, ce qui en dit déjà long sur les rapports qu'il entretient avec les humains. Est-ce que c'est précisément par ce prisme très MEDEF que vous l'avez abordé ?
Moi, je l'ai abordé... j'ai toujours l'habitude de dire qu'il n'y a pas de personnage à proprement parler. Il y a un texte qui s'impose. Et qu'il faut penser ce que vous dites d'abord et avant tout. Et à ce moment-là, il y a une alchimie où l'or n'est pas toujours au rendez-vous, qui se crée entre le texte, vous, le metteur en scène, le moment où ça se passe, où ça se trouve. Mais il n'y a pas vraiment un personnage. Si j'avais dû, j'aurais eu beaucoup de mal si on m'avait dit, vous savez, c'est une espèce de Bernard Tapie. J'aurais fait, merde, c'est pas possible et tout. Bon, mais ça aurait été aussi grossier de ma part, puisque je ne connais pas intimement Bernard Tapie. Donc ça aurait été aussi stupide de ma part. Donc non, je crois que je me suis fié au texte. Et ce il fait l'erreur que font souvent les gens qui ont besoin du rendement immédiat. D'ailleurs, c'est le grand problème de notre époque, c'est cette efficacité en urgence, en permanence. On est urgemment, il faut être urgemment efficace. Alors même que l'analyse, c'est le principe absolument opposé, contraire. Bien sûr. Faut se perdre dans l'analyse, il faut prendre les chemins de traverse, et c'est dans ces chemins de traverse. Ça m'a rappelé une chose que disait Jean-Claude Carrière, ce grand monsieur du cinéma. Il m'avait donné un conseil pour adapter au théâtre, au cinéma. Il m'avait dit, tu sais, la première chose à faire, c'est ne rien censurer. Mais rien. Si d'un seul coup tu dis tiens, il y a un crocodile qui arrive dans la salle et puis il a envie de faire pipi et tu tires la chasse, bon voilà. Je sais pas ce qui m'arrive là, tiens, ça c'est une analyse. Là. faut y aller. Et c'est comme ça, il m'a raconté des histoires avec Buñuel. Il y a plein de choses qui sont dans cette œuvre magistrale de Buñuel qui sont sorties comme ça.
Voilà. En réalité, contre toute attente, Abgral est un homme fragile. Bon, sinon, il n'y aurait pas grand-chose à filmer. Hein. Dans une série axée sur les mots, et ben, c'est son corps qui parle en premier à Abgral. Vous qui dites ne pas aimer parler, Emmanuel, est-ce que ça vous l'a rendu attachant, le fait que ce soit d'abord son corps qui parle une fois qu'il est dans le cabinet ?
Alors, je poursuis ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de filmer Jacques. Et j'ai tout de suite dit à Jacques, de toute façon, le personnage, c'est toi. Donc, ce côté chef d'entreprise, etc., t'as été directeur du théâtre de Nice, peut-être tu peux trouver pour toi des résonances là-dedans, mais moi, c'est toi. Et parce qu'on a fait pas mal de répétitions avec Jacques, ce qui a été vraiment génial, parce qu'on a travaillé un peu comme au théâtre, où on a le temps de beaucoup travailler avant de tourner, ce qu'on ne peut jamais faire en fait au cinéma. Et ça, c'était vraiment merveilleux. Et dans ce travail, j'ai tout de suite vu que Jacques bouge énormément. se sert énormément de ses mains, fait beaucoup de mouvements avec son corps. Et là, je me suis dit, bon, ben, c'est royal pour moi, parce qu'évidemment, ce qu'on appelle le body language, alors lui, vraiment, son personnage, ça passe énormément par là.
Alors que là, ça n'est absolument pas. C'est drôle ce que tu dis, parce que body language, d'abord, je sais pas.
Parce que oui, c'est le langage du corps. Le langage du corps, je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais.
Showrunner.
Je pense que c'est showrunner. C'est
directeur de.
Ah, d'accord. En tout cas, body language.
Le langage du corps, quoi.
Oui, non, mais j'ai cru comprendre. Mais ce qui est vrai, c'est que je m'en suis pas rendu compte. Mais ce qui est vrai, c'est que quand je parle, je suis ou en avant. En avant, c'est parce qu'on a envie de. Voilà, quoi. Tu comprends. Ou alors, oh merde. Mais moi, j'ai le corps qui... Et c'est vachement important, je crois, parce que ce que je dis toujours au théâtre en France, très souvent, les mecs jouent avec la tête d'un côté, le corps de l'autre. Or, c'est tout le contraire du théâtre anglais, par exemple. Il faut une réconciliation. Vous savez, c'est le mythe de Pierrot Gourmand. Non, mais c'est vrai, Pierrot Gourmand, t'as vu, il a une collerette qui coupe la tête, et puis le reste est fantomatique. Alors même que c'est ça qui fait la réplique. J'ai tapé,
dit-il,
tout le monde a reconnu.
À part le torse.
Voilà.
Généreux.
C'est comme dans la tutelle. Tu te souviens de la bande, tu te souviens pas de la bande dessinée dans Tintin de Oum Papa,
mais bien sûr.
Oum Papa!
Bah évidemment, voilà. Oum Papa, l'Indien, là, évidemment. J'ai même une statuette d'Oum Papa, mais je m'éloigne. Bon, j'ai détourné vers vous, je me retourne vers moi, merci. Emmanuel,
il va falloir faire quelque chose,
oui,
quand même.
Pourquoi vous avez un torticolis?
Non, c'est parce que j'ai un tabouret qui fait beaucoup de bruit quand je me tourne. Regardez, c'est dingue, non? Bon, Emmanuel, Jacques, on revient dans un instant sur le divan du psy, mais pour l'instant, il est 16h30 et ça, c'est l'heure des pop news.
Dans les folies fermières de Jean-Pierre Améris, Alban Ivanov et David, un jeune paysan du Cantal dont la ferme est menacée de faillite. Mais le jeune paysan est aussi fan d'une effeuilleuse nommée Bonnie Starlight, Sabrina Ouazani. Alors David a une idée.
Je veux monter ce cabaret pour montrer que le Cantal n'est pas mort. Avec vous, je peux y arriver.
Alors que les choses soient bien claires. 1. Je ne participe pas aux travaux de la ferme. 2. L'artistique, c'est moi. Et 3. Je ne couche pas.
À Pôle emploi, ils m'ont donné plein de contacts d'artistes géniaux de la région.
Donc l'idée, c'est de faire un cabaret ici.
Le premier cabaret à la ferme de France. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autre.
Ah, faut peut-être se demander pourquoi. Hein.
Les Folies fermières, d'après une histoire vraie, ce sera le 11 mai au ciné.
La reprise du jour, c'est à une éminence country, chevelue et barbue qu'on la doit, Willie Nelson, qui s'attaque à Leonard Cohen et à son Tower of Song.
My friends are gone, and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming home.
Eh oui, moi non plus, je reviens pas à la maison. Une reprise qui figurera sur Beautiful Me, son nouvel album studio, qui sortira le 29 avril.
Alanis Morissette a, elle, choisi de se reprendre elle-même. Pour les besoins de la BO de la froufroutante série La Chronique de Bridgerton, la Canadienne a réinterprété en version orchestrale avec le compositeur Duomo et le quartet Chroma Strings son hit vengeur des années 90 et c'est beaucoup plus doux. You ought to know d'Alanis Morissette, version orchestre, c'est à retrouver sur le compte Twitter 3615 Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Alanis Morissette?
Non, Willie Nelson.
Bah, les deux, ça marchait pareil.
Non, pas du tout. Si, vraiment, vraiment Willie Nelson. Alors, je suis désolé, je peux pas vous laisser dire une chose pareille. Bien, nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Berco et de Jacques Weber pour parler de la deuxième saison d'En Thérapie sur Arte. Je parlais tout à l'heure de films d'utilité publique. Et là, avec cette série En Thérapie, Jacques, on sait très bien quand on appartient à une certaine génération d'hommes, comme vous et moi, on a été un peu conditionnés à ne pas montrer nos fragilités, voire à les nier parfois, et l'idée même de se confier à un psy ou un médecin peut sembler bizarre, étrange. Or, c'est une série, j'ai l'impression, qui fait bouger un peu les lignes et les mentalités. Elle a été vue par plus de 50 millions de personnes.
Oui, mais je crois justement que ce qui touche beaucoup les gens, c'est à partir d'une chose qui les surprend, c'est-à-dire l'immobilité, le statisme absolu. Il rencontre, il retrouve l'Amazonie dans laquelle ils sont du matin au soir. Mmh.
Comme mon papa sur sa pirogue.
Ouais, non, mais vraiment, c'est un bordel noir dans nos têtes quand même, qu'on le veuille ou non, entre la pression historique et la pression de l'intimité, la pression de notre petite histoire et de la grande histoire. C'est vrai qu'en ce moment, ça n'est pas un hasard si après le Covid et avec l'Ukraine, il y a une recrudescence prodigieuse des dépressions. Les psys savent plus où se mettre, que ce soit et pour les enfants et pour les adultes. Donc, et je veux dire que lorsqu'on est aussi concentré sur un champ réduit, comme ça, de deux personnes qui ne bougent pas, ça oblige déjà à une forme de concentration. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans l'un des plus beaux voyages du monde, qui est le voyage de la conscience, pour ne pas dire de l'âme, parce que sinon on va croire que je suis un religieux, ce qui n'est pas du tout
mon cas. Vous fâchez pas.
Voilà.
Emmanuel Berko, vous avez été contacté avant même que la première saison soit diffusée.
Oui.
Est-ce que vous avez quand même regardé la saison 1 par la suite, ou même est-ce que vous êtes intéressé à la version originale et à la version américaine?
Non, j'ai regardé, l'émission n'avait pas été diffusée, mais j'ai regardé les 35 épisodes par un lien. Et quand je les ai revus ensuite, c'était diffusé et on connaissait l'extraordinaire succès de la saison. Et je me souviens justement, je leur avais dit, mais comment vous pouvez expliquer ça? Parce qu'il y a plein, pour qu'il y ait tant de gens qui regardaient, ça veut dire que c'est pas que des gens qui vont chez le psy. Et notamment, il y a plein de cultures chez qui aller chez le psy, c'est pas du tout, ça se fait pas, c'est preuve que on est fou, c'est preuve de faiblesse. Et pourtant, il y a plein de ces gens-là qui ont regardé la série. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. Et je pense aussi, en dehors du fait que la série, elle remet au centre et la parole et l'écoute dans un monde où la cacophonie, on parle à tort et à travers sans aucune nuance, etc. Mais moi, ce que je trouve aussi, c'est qu'il n'y a pas de violence. C'est-à-dire, tu le disais tout à l'heure, c'est un film d'action, ça bouge de partout les tripes, mais il n'y a pas de violence.
Oui, ça remue. Et on parle au calme.
C'est très remuant.
Et la voix de Frédéric Pierrot aussi.
C'est un spa?
Ouais. Non, mais je pense que ça joue.
La voix de Frédéric Pierrot, c'est un spa.
Non, mais ça joue beaucoup
parler
aussi.
Le calme, c'est extrêmement important. C'est parce que c'est l'opposé de ce que nous vivons, quoi. Le calme, c'est magnifique. C'est très beau.
Qu'est-ce qu'il y avait de particulièrement stimulant et excitant pour vous dans le dispositif d'en-thérapie? C'est-à-dire un dispositif sans artifice, un pur tête-à-tête, presque théâtral à sa manière.
Moi, ce que j'aimais énormément, c'est qu'on faisait des grandes traversées des scènes. C'est-à-dire qu'on faisait, si mes souvenirs sont bons, on faisait un chant puis, qui était sur moi, puis après un contre-chant sur Frédéric. Et on enfilait, mais je sais pas, 10 minutes de scène. Et pour moi, c'était... Mais ça, c'est pas parce que ça me rappelait le théâtre, c'est simplement parce que ce qu'on appelle l'énoncé libre, en termes de psychanalyse, pouvait se faire plus facilement. Elle n'était pas interrompue. Comme on avait plusieurs axes, Emmanuel pouvait intervenir à l'intérieur de la prise. Si jamais on commençait un peu à... Non, reprends. Un petit peu comme ça. Paf. Boum. Et moi, j'adorais, parce qu'on reçoit un petit coup de fouet, et hop, on se recadre et on retourne. Et en même temps, ça crée des espèces de coups de poing dans l'émotion, quoi, coups de poing au cœur, qui sont tout à fait forts. Et en plus, cette concentration que le public ressent, nous, on la ressent très fort. D'être tout le temps, toute une journée... totalement concentré à l'intérieur d'un studio avec les mêmes personnes comme ça confiné, c'est le cas de le dire. C'est très fort, très puissant, très intéressant.
J'apprends donc qu'Emmanuel distribue des petits coups de fouet sur cette
tournage. Oui, un petit peu. Non, mais pour
un petit peu. Oui.
Enfin, non, moi je trouve que pour un acteur, enfin moi je l'ai pas vécu en tant qu'actrice malheureusement, mais je trouve que c'est quand même c'est une chance. Enfin c'est une chance inédite. Ils n'ont jamais fait ça et peut-être ils ne le referont jamais. C'est quand même 2h30 sur leur gueule. Non mais c'est 2h30 presque en gros plan malgré tout. Et au cinéma, pour les gens qui nous écoutent et qui savent pas, quand on fait une prise un peu longue, pas trop découpée, maximum c'est 3 minutes. Et là on recommence. Là c'est vrai que parfois ils partaient pour 10 minutes, même quelquefois pour 20 minutes. Et c'est pour eux, c'est un saut en parachute. C'est une expérience, je pense, même humaine. Et puis sur le jeu de l'acteur, je pense qu'on doit découvrir et prouver des choses vraiment inouïes.
Avec une part d'impro?
Non, aucune. Là, non, je crois que ça serait très dangereux.
Nous, on en a fait un peu en répète pour trouver des trucs.
Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'on a une chance inouïe, c'est que, parce que quand on écrit des choses sur la psy, il ne faut pas être pataud. Et là, les gens qui ont écrit cette série,
remarquablement c'est extraordinairement écrit, vraiment.
Fort. Et ils ont en plus tenu compte de des petites choses qu'on a recadrées un peu, mais c'est exceptionnel comme écrit. l'écriture. C'est assez facile, finalement. Ça vient directement, quoi.
Alors, ne vous méprenez pas sur mes intentions. La question n'a rien d'intrusif, mais est-ce que l'univers de la psychanalyse, de manière générale, est un univers qui vous a déjà intéressé en tant que sujet?
Ça ne me gêne pas d'en parler. J'ai été très longtemps en psychothérapie, parce qu'il faut quand même faire c'est une grande nuance importante. Thérapie n'est pas une psychanalyse. C'est pas une analyse. Nous sommes dans un rapport face à face. Et nous sommes dans un rapport de dialogue. Alors même que la psychanalyse, ça n'a rien à voir avec ça. C'est justement sur l'aveugle. On est allongé, on est aveuglé, et l'homme est derrière, et il dit oui de temps en temps, c'est tout. Donc déjà, c'est totalement autre chose. La psychothérapie, j'en ai fait très 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 longtemps, pour des raisons qui ne m'appartiennent. Mais c'est très drôle comme ce type d'expérience n'a rien à voir, ne joue pas par rapport à l'expérience du tournage lui-même. Par contre, tous les éléments extérieurs de votre vie peuvent influer beaucoup sur la façon dont vous allez décliner telle ou telle scène. Ça, c'est sûr.
C'est un sujet
de jeu de tout acteur, d'ailleurs.
Sujet de fiction passionnant. Ce principe même, fait.
Ah bah oui, complètement.
Emmanuel voulait aussi répondre à la question de Charline.
Oui, je veux d'autant plus y répondre que j'étais vraiment la seule, et à un moment, j'en concevais même un peu une gêne, ou un complexe, c'est que j'étais vraiment la seule de toute cette équipe à ne pas du tout m'être frottée à ça. Et vraiment, j'y connais rien. Et c'était tous quand même des férus dans les autres réalisateurs, Toledano Nakash, dans les scénaristes et tout. C'est vraiment ils sont très très costauds sur le sujet. Et je me disais, mais est-ce que je peux venir comme ça, si innocente? Et en fait, je pense que oui.
Ben oui, c'est ça qui est possible. Que...
bien sûr.
Candide... Vous me le confirmez?
Non, bien sûr.
Le rôle de Candide est essentiel, ça fait beaucoup de bien.
Essentiel, absolument. Jacques, je me souviens qu'en 1980, quand vous jouiez Cyrano avec Jérôme Savary, vous avez été...
Vous avez reçu,
mais évidemment.
Je me souviens très bien.
Vous avez été surtout, à l'époque, frappé de phobie vocale, le cauchemar de l'acteur. Qu'en dirait aujourd'hui ce bon docteur Dayan?
Alors là, je crois qu'il y en aurait pour 15, 20, 30 ans d'analyse. Ça pourrait continuer encore comme ça. C'était en effet d'ordre psychosomatique, enfin quelque chose comme ça, parce qu'il n'y avait pas de désordre physiologique. Ouais. Mais il y avait l'exécution d'un rêve d'enfant, probablement, qui était celui de jouer Cyrano, qui ensuite était triomphalement reçu, en toute modestie. Et donc, ça, après, vous avez une espèce de charge de peur, panique, quoi, de ne pas être à la hauteur de ce rendez-vous tous les soirs. Très vite, on m'applaudissait quand je rentrais en scène sur un rôle, en plus, absolument symbolique pour toute la France. Donc, vous vous dites, j'ai une responsabilité totale. Donc, ça vous fait de plus en plus peur. Et à un moment, la peur passe par-dessus la joie. Et là, il y a rupture. Et donc, je pense que... Mais ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a des restes. Il y a des restes. C'est-à-dire que ma voix, dès que je suis un peu dans la gêne, la trouille, j'ai un rapport avec ma voix extrêmement étrange. D'ailleurs, Emmanuel a tout de suite repéré cette étrangeté entre ce qu'elle appelle ma grosse voix et ma voix normale. Et c'est vrai que parfois... parce que j'ai un peu peur, je parle un peu là. Oui, mon cher. Cher Antoine. Eh bien, écoutez, oui, le théâtre. Alors, elle, ça fait rire, mais par contre, en tournage, ça ne la fait pas rire du tout. Pas ta voix, pas ta grosse voix.
Et vous, Emmanuel, qu'est-ce qui vous laisse littéralement sans voix aujourd'hui? Ma question.
Là, franchement, moi, ce qui se passe en politique, je vous avoue, ça, c'est vraiment le truc qui me laisse sans voix, parce que j'ai beau chercher des choses à en dire, je suis en fait tellement affligée, tellement percutée, tellement inquiète, tellement angoissée, que vraiment là, je suis sans voix. C'est un bon exemple.
Le problème, c'est qu'on en est tous là, à peu près. Même ceux qui aiment bien parler, moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime bien m'exprimer sur le plan politique, et là, je suis... C'est exactement ce que tu dis, sans voix,
phobie vocale.
Je ne sais plus. Non, mais c'est
vocale,
vrai,
là, retour.
C'est absolument épouvantable que ce soit en France, avec les élections qui nous attendent, avec cette montée de l'extrémisme de droite qui était terrible, qui est insupportable. Et puis, l'Ukraine, ce drame humain sur lequel il y a des considérations diplomatico-économico, machin, et pensant, il y a des gens qui meurent. Non, c'est... terrible. Mais je voulais vous dire sur le silence, à moins que vous ne m'interrompiez.
Oh, mais je vais peut-être vous interrompre dans pas
bien,
longtemps.
Bien, parce bien, interrompez-moi.
Si vous le voulez bien, mon cher Jacques. Non, puis j'ai réussi à plomber l'ambiance avec la dernière petite question. De toute façon, ne bougez, ne vous inquiétez pas, Jacques. Vous restez avec nous tous les deux, car dans un instant, nous allons examiner vos choix en matière de pop culture. Mais tout de suite, puisqu'on va parler pop, ne serait-il pas agréable d'écouter les Beach Boys? Wouldn't it be nice?
Ah oui, hein, j'adore. Oh, c'est de la vieille chose, ça, c'est...
Beach Boys qui ont permis à Jacques Weber de faire sa petite séance d'aérobic, comme on disait. Vous écoutez Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors ça, Emmanuel Berco,
c'est quoi ça?
Ce sont des oignons qu'on met à frire, et c'est ce qui vous évoque la pop culture. Alors, j'avoue, je ne vois pas immédiatement le rapport, mais vous allez me l'expliquer, bien sûr. Alors, pop friture, pop culture, allez-y. Elle est morte de rire.
Bah, c'est bien, vous avez trouvé le son. Non, mais non, il y avait écrit son de la vie quotidienne. J'ai plutôt cherché de ce côté-là, ah oui. Et ce côté...
Ça me convient tout à fait.
Puis c'est partout, c'est chez tout le monde, c'est partout, c'est dans tous les pays. C'est vraiment un truc qui...
C'est universel, quoi.
C'est universel. Ouais, c'est
le son de la friture. Voilà. La pop culture, ce n'est jamais qu'une bonne vieille friture. En tous les cas...
D'oignon,
bien sûr. En tous les cas, c'est ce qui lance votre pop list. Nous avons demandé à tous les deux de choisir un livre, un film, une musique, une série que vous appréciez en ce moment, et nous en avons fait un petit florilège. Le livre que vous avez choisi, Emmanuel, c'est Le choix du chômage de Benoît Colombat et Damien Cuvillier. Charline, what's that?
Un roman graphique préfacé par Ken Loach. Et on comprend pourquoi. Il raconte comment les dirigeants européens, depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui, ont sacrifié l'emploi et les effets dévastateurs de ce choix.
Alors Emmanuel, c'est une BD sociale, donc qu'est-ce qui vous plaît en particulier?
Bon, ça fait longtemps que je l'ai sur ma table, hein, parce qu'il ne vient pas de sortir, mais ce qui me plaît, c'est que parfois j'ai besoin de comprendre. Je suis nulle en économie. Ça me passionne, mais je suis vraiment très nulle. Et je me suis dit que cette BD, dont les dessins sont vraiment super, c'est une enquête d'une richesse, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Mais ils arrivent à rendre ça accessible aussi par le dessin. Et voilà, j'essaye de comprendre parce qu'ils décortiquent tout depuis Pompidou. sur les racines de cette violence économique et comment des choix ont été faits pour finalement augmenter le chômage et rendre les pauvres plus pauvres. La pauvreté, évidemment dans le monde, mais en France, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Et j'essaie d'en comprendre les racines, le mécanisme, les sources. Et je trouve que c'est lire un bouquin, bon, ça peut être un peu fastidieux dans ce domaine, mais je trouve que eux, ils ont réussi, un exploit de rendre, de raconter ça par du dessin, et c'est du journalisme. Hein. D'accord, donc voilà, ouais. Moi je le recommande beaucoup pour les gens qui ont envie de comprendre comment on en est arrivé là, parce que...
Ça s'appelle « Le choix du chômage » de Benoît Colomba et Damien Cuvillier. Voilà pour votre recommandation. Jacques Weber, vous aviez choisi le livre que vous êtes en train d'écrire, ce qui fait qu'évidemment nous ne l'avons pas encore lu, évidemment. Vous voulez bien nous en dire un mot ?
Oui, tout à fait. Non, mais c'est pas pour faire de la pub, mais parce que j'ai le nez complètement dedans, et donc pour l'instant je lis... peu, enfin moins que d'habitude, quoi, parce que voilà, je suis dans ce truc, et je me relis tout le temps, donc c'est de la lecture.
Tout à fait.
Non, mais j'ai décidé, d'ailleurs c'est en relation avec la chanson que j'ai choisie, c'est qu'on m'avait demandé, on m'a dit, après 50 ans de carrière, vous pouvez raconter, nanana, j'avais pas du tout envie de me raconter, par contre, ce que je trouve très intéressant comme exercice, c'est de, à partir de portraits uniquement des gens que vous aimez, de ceux qu'on aime, de faire des grands cercles concentriques comme ça sur les époques, sur les gens autour, sur les et c'est tout là par exemple je viens de faire un chapitre assez long sur Jeanne Moreau et c'est parti donc sur Signoret, sur Edith Cleaver que les gens ne connaissent pas bien mais qui est une grande star du théâtre allemand, sur Simone Signoret, sur Montand, sur et puis sur cette époque là et voilà tout partait une arborescence à repartir de Moreau à partir d'un tel, il va y avoir la page Berco, alors ça je vais
mais non
Bon, Jacques, le film que vous nous conseillez, c'est le documentaire « Seule la Terre est éternelle » oui. De François Bunel et Adrien Solan.
Ouais,
c'est un beau titre, mais attendez, c'est un arbre qui cache une forêt peut-être, Charline ?
Qui cache l'un des plus grands écrivains américains, Jim Harrison, auteur entre autres merveilles de Dalva, il raconte sa vie des plus agitées et révèle une autre histoire de l'Amérique.
Landscape can take your sorrows away. And Shakespeare said, we are nature too. That's the overwhelming fact of life. But my favorite epitaph like that is, we loved the earth but couldn't stay. That's about it.
Alors, puisqu'il est question des gens que vous aimez, il y aura du Jim Harrison
Moi, c'est un des auteurs que je préfère, mais ce que j'ai trouvé merveilleux dans ce film, c'est qu'il était extrêmement humble, et on avait d'un côté le gros plan permanent de cette gueule de chef-d'œuvre, c'est une voix de chef-d'œuvre, et à côté, et c'était pris dans le cinémascope, c'est vraiment du scope, sur les paysages américains, je trouve que c'est un film extraordinairement réussi, très loin du documentaire, on n'est pas loin de Terrence Malick, on n'est pas loin de ce type d'univers, ça a été fait, je crois, par Bunel et bien un collègue à lui, je sais
Adrien
plus.
Adrien Solan.
Adrien Solan. Et c'est vraiment un film qu'il faut à tout prix voir, et l'univers d'Harrison et ce retour à passionné, forcené même vers la nature et d'une prodigieuse.
Seule la terre est éternelle, donc le film.
Proverbe indien, il faut bien le dire. Proverbe indien. Parce que sinon, les gens disent ben non, elle n'est pas éternelle, la terre.
Proverbe indien. Emmanuel Berco, votre série du moment, c'est The White Lotus de Mike White. C'est sur HBO. Charline, qu'est-ce que c'est que ce lotus blanc, comme l'appellent nos amis québécois ?
Bienvenue dans cette station balnéaire dans laquelle les clients profitent de leurs vacances, dans un cadre idyllique, pris en charge par un personnel des plus agréables et serviables. Tout devrait donc bien se passer. Enfin, j'ai dit de vrai.
Hello. I brought my mother's ashes with me so I could spread them in the ocean. I'm gonna need a boat.
We have our resort boat you can charter.
Could I get some alcohol on the boat?
Of course. Some fruit and cheese, maybe?
I think I'm gonna be a little emotional. But let's definitely order the cheese.
Ça a l'air très très angoissant quand on en parle comme ça, mais en fait c'est une des séries les plus poilantes et les plus bizarres.
Ah, vous l'avez vu ?
Oui, qu'on a vu depuis longtemps.
Ah ouais. Ouais.
Elle vous a beaucoup amusé ?
Ah non, mais je suis dedans, vous m'avez demandé quelle série du moment.
Ah oui.
Je suis vraiment dedans, c'est Pierre Ninet qui me l'a recommandé, mais surtout en me parlant des acteurs. De toute façon, moi le plaisir vraiment que je trouve dans les séries, en dehors de la dramaturgie qui est brillante, etc. C'est vraiment les acteurs, enfin dans les séries avec les acteurs anglo-saxons qui sont quand même. Moi, je me prends des claques à chaque fois, mais donc voilà, là, je suis dans la jubilation de découvrir ces acteurs. Je sais pas où ça va me mener, mais en tout cas, on est dans cet hôtel sur à Hawaï et déjà ça fait plaisir.
Celle qu'on vient d'entendre, Jennifer Coolidge, est absolument démente.
Ouais.
Vraiment.
Ouais, ouais.
Dépêchez-vous d'aller voir White Lotus.
Sur OCS.
Ah ouais, sur OCS. Je garantis une très très bonne soirée. Bon, pour terminer, Jacques, pour votre choix musique, vous avez choisi de nous passer On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, qu'on les aime, de Louis Chédid. Alors d'abord, envie de vous dire que nous, on vous aime, mais pourquoi ce choix?
Non, c'est parce que je trouve que c'est une chansonnette toute simple, un peu, je dirais presque, entre guillemets, il ne m'en voudra pas, bébête, comme on pourrait dire, mais qui est tellement belle et tellement simple, je l'ai adorée, et puis ça m'a rappelé le concert magique qu'il y avait entre ses enfants et lui,
les différentes générations,
avec Chédid, ouais. Et c'était merveilleux, et je trouve que en ce moment, je trouve que c'est très important de dire aux gens qu'on les aime, parce que on est tellement dans un monde de haine et de crispation que si on peut dire bah je t'aime, voilà, je t'aime bien, je t'aime beaucoup, voilà, je suis bien avec toi, ça soulage, quoi. C'est vachement important. Fraternité, nom de Dieu.
Pop, émission où l'on s'aime. Et maintenant, eh bien, on se l'écoute.
Ah, c'est bien.
Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec duquel on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, il y a comme une chaleur. Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur. Trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner. Jamais assez que sans eux, sans elle, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Avant de nous dire au revoir, marcher à l'ombre, avant que sur notre histoire le rideau tombe. Déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait d'un sombre sans vous autour, vous tous autour. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner. Jamais assez que sans eux, sans elle, on serait même pas la moitié de nous-mêmes. Qu'y a-t-il de plus important, la raison ou les sentiments? On ne dit jamais assez. On ne dit jamais assez qu'on les aime. Je vous aime.
Louis Chédid, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Et c'était un cadeau de Francis Weber.
Francis,
c'est toujours la vieille
histoire.
Oh, finish.
C'est pas vrai, la dernière ligne droite, mais c'est pas vrai. Oh, Jacques, laissez-moi vous baiser les pieds. Bon, merci Emmanuel Perco, et merci Jacques Weber. Je rappelle aux oublieux que la seconde saison de la série En Thérapie est diffusée en ce moment sur Arte et dans son intégralité sur arte.tv. Et les mots me manquent pour vous dire à quel point nous vous encourageons à la regarder et à l'écouter attentivement, cette série. Merci à vous deux.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci Francis, merci Charline. Non.
Il a bien fait.
Merci Anthony.
Charline. Merci Charline.
Merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Loïc Frappesauce qui était à la technique aujourd'hui.